L'émeraude par Paul Venz. Mrs. Monty Smith était la veuve d'un colonel anglais morosade. L'appartement qu'elle occupait dans South Kensington, London, South West, était rempli de souvenirs de là-bas, si plein qu'un homme visitant le flat pour la première fois avait des chances, dès son entrée dans le vestibule, de trébucher contre un pied d'éléphant transformé en cache-pot et de frôler en même temps la main sanglante d'une statue de Kali en albâtre peinture lurée. Chaque pièce reproduisait la note hindoue. La salle à manger était ornée de boucliers damasquinés de Lahore, d'une panoplie d'armes blanches plus féroces et plus cruelles les unes que les autres. Le salon avait des tentures bleues scintillantes de 1000 petits miroirs cousus sur l'étoffe. Chaque meuble portait des cuivres de Bénarès, des idoles de Trichinopoli, des petits éléphants d'ivoire et d'ébène sculptés à Ceylan. Mrs. Monty Smith, née anglaise, était devenue coloniale, comme d'ailleurs la plupart de ses compatriotes qui ont vécu quelques années dans la grande péninsule. 15 ans passés sous les soleils rouges et flamboyants avaient été pour elle les meilleurs de son existence. Et dans le pays gris et vert de l'Angleterre, elle se sentait parfois une exilée. Elle regrettait leur vie de grand seigneur entourée d'une nuée de domestiques. Depuis le majordome qui surveillait la maison, jusqu'au vieux à tête de fakir qui, à demi assoupi, tirait la ponka dont il tenait la corde entre ses orteils. Ici, à South Kensington, elle n'avait que 4 domestiques. C'était un train de maison bien humble comparé à celui de Calcutta ou de Hyderabad. Feu le colonel avait eu aux Indes une brillante carrière. Il avait suivi les chasses des Rajas et la tête de buffle qui était au mur de la salle à manger prouvait en tout cas qu'il était bon tireur et de sang-froid. Il avait eu beaucoup à faire avec des princes hindous qui avaient dépensé les richesses de leurs ancêtres et qui étaient pour leur marraine l'Angleterre un souci continuel. L'Inde, sans le colonel, aurait paru impossible à Mrs. Monty Smith. Elle était donc revenue au home, avec 15 grandes caisses, sans compter ses malles, ni la cage qui contenait Polly, le cacatoès australien que le colonel lui avait un jour acheté à Colombo. Polly était ce que la veuve avait maintenant de plus cher au monde. Elle tenait fort, il est vrai, à l'émeraude de sa bague. Elle aimait son neveu sans exagérer ses sentiments, mais l'oiseau à crête de soufre occupait dans son cœur la toute première place. Non, Mrs. Monty Smith n'était pas une femme dénuée d'âme. Le fait qu'elle préférait Polly à son neveu Percy peut sembler choquant à première vue, mais il aurait suffi de connaître les deux pour comprendre les penchants de la veuve et pour les approuver. Polly était très intelligent, d'un caractère charmant, et possédait de plus un vocabulaire en 2 langues. Il disait en anglais « gratte et coquille »,« donnez-moi une tasse de thé ». Il savait s'exclamer comme une vieille fille et dire « oh dear, oh dear », ou s'étonner comme un clubman en prononçant très distinctement « well, I'm damned ». Son vocabulaire en hindoustanie était plus complet encore, soit que le langage lui flattait l'oreille davantage, soit que les nombreux domestiques de là-bas se fussent donné plus de peine pour son éducation. La veuve, heureusement, ne comprenait pas cet hindoustanie-là. L'oiseau avait un instinct qu'ont beaucoup de chiens et que malheureusement nous n'avons pas assez développé. Il distinguait les gens et les appréciait avec une étonnante clarté de jugement. Polly ne pouvait pas sentir Percy et ne daignait employer que l'hindoustanie à son adresse. Le neveu, d'ailleurs, détestait ce qu'il dénommait le sale oiseau et avait souvent fait devant le cacatoès un geste qui, pour tous les oiseaux du monde, signifie « tordre le cou ». Percy avait bien des défauts, mais il faut avouer qu'il ne semblait nourrir aucune illusion sur lui-même. L'ambition ne l'empêchait nullement de respirer. Un ami de sa famille lui avait offert une chaise dans son bureau et l'avait encouragé à s'y asseoir régulièrement en lui donnant 2 livres sterling par semaine. Percy arrivait au bureau à 10 heures chaque matin et repartait à 5 heures. Jusqu'ici, les affaires de la maison ne s'étaient nullement ressenties de sa présence journalière. Percy n'était pas intelligent, et l'idée qu'il était venu de se mettre un monocle dans l'œil n'ajoutait rien à son apparence ovine. Il avait cependant montré une certaine originalité, non pas en portant ce monocle, mais en le fixant dans son orbite gauche, ce qui demande beaucoup plus d'habitude et d'entraînement que de le porter dans l'œil droit. À part cela, il n'avait rien de remarquable. Il portait les guêtres classiques, le chapeau melon d'un numéro trop grand et possédait un étui à cigarettes en argent sur lequel il tapait trois fois sa cigarette avant de la mettre à la bouche. Enfin, Percy avait des gestes et des manières qui auraient passé dans les meilleurs clubs de Londres dont il ne faisait pas partie. Il était en un mot un gentleman, une chose que nous pouvons tous nous représenter, mais dont nous n'avons jamais entendu une bonne et claire définition. Son club, l'élite, le voyait plusieurs soirs de la semaine assis à une table de bridge où la chance lui souriait parfois et parfois aussi lui faisait la grimace. Certaines parties de cartes nécessitaient même une visite à sa tante Mrs. Montesmith, qui avait le rare don de donner discrètement quelques livres sterling à son neveu sans les envelopper du papier poisseux des bons conseils. Ces soirs-là, Percy a jusqu'à demander des nouvelles du Cacatoès, déjà endormi dans sa cage couverte d'une toile rouge. L'émeraude dont la veuve était si fière avait une histoire, et une bonne partie de South Kensington ne l'ignorait pas. La pierre devait être doublement précieuse, car elle avait coûté, disait la légende, plusieurs existences humaines. Le mineur qui l'avait découverte il y a environ 2 siècles n'était jamais sorti de la mine, car il avait été étranglé par ordre d'un Raja pour avoir voulu dérober la trouvaille. Une fois taillée, l'émeraude trouva place sur le sein d'une princesse, puis alla se fixer sur le front serein d'un Bouddha, où elle resta une centaine d'années dans l'ombre sacrée d'un temple. Un jour, les Blancs envahirent le pays. Bouddha lui-même ne fut pas respecté, l'émeraude fut arrachée de son front. Il y eut un peu plus tard un grand massacre de Blancs. La gemme retrouvée reprit sa place sacrée sur le front du dieu. Là, elle resta longtemps oubliée. Elle se trouva un jour dans les mains du colonel Montesmith, offerte par le Raja de Rusinapor en paiement d'une dette que celui-ci avait contractée et qu'il ne pouvait acquitter en roupie sonnante. Le colonel aurait préféré l'argent, mais le Raja avait déjà perdu au jeu les plus beaux de ses éléphants de chasse et Montesmith s'estima heureux après tout de posséder l'émeraude historique. Une condition était attachée à ce paiement. Le colonel devait promettre sur son honneur de ne pas divulguer la provenance de la gemme avant que 5 années ne se fussent écoulées. Monty donna sa parole et alla aussitôt faire monter en bague l'émeraude mystérieuse dont il fit cadeau à sa femme. Le colonel était mort quelques mois à peine après avoir révélé à Mrs. Montesmith l'étrange légende de la pierre précieuse. Cette légende avait grandi dans des proportions fantastiques et des personnes allaient faire une visite à la veuve dans son appartement de South Kensington rien que pour voir la fameuse bague. L'émeraude était de belle taille et avait des feux magnifiques. Elle était mal montée comme le sont souvent les pierres aux Indes et plus d'une fois, Mrs. Monty Smith avait songé à la porter à un bijoutier de Piccadilly. La crainte de perdre le joyau l'en avait empêché. « Percy dear, » avait-il dit à son neveu un soir, « je ne suis pas riche. Ce que le colonel m'a laissé me permet de vivre avec confort. Je puis de temps en temps payer les petites dettes à un naughty boy comme vous, mais ne l'oubliez pas, je ne suis nullement ce qu'on appelle une tante à héritage. Je vous laisserai quelques souvenirs qui vous empêcheront de m'oublier, mais c'est tout. » Percy se demanda si, parmi les souvenirs qui lui seraient légués, la bague d'émeraude aurait sa place. Le lendemain, il passa par Bond Street et entra chez 2 bijoutiers où il se fit monter quelques émeraudes par curiosité. Des pierres plus petites que celles de la veuve représentaient une petite fortune. Un remords le prit soudain et sa conscience lui reprocha de ne pas aller plus souvent voir cette chère tante qui était si bonne pour lui. Un matin d'été, le soleil inonda l'appartement et enveloppa Polly de ses chauds rayons. Le Cacatoès sembla se rappeler soudain qu'il avait connu un proche parent de ce soleil plus fort et plus généreux aux Indes et surtout là-bas en Australie. Ce soleil-là les réveillait de bonne heure et les chassait en troupe des plus hautes branches d'un vieux gommier. Ils se répandaient dans la plaine encore fraîche de rosée et mangeaient les graines sauvages ou même le blé nouvellement ensemencé d'un champ voisin. Il faut croire que ce soleil de juillet de Londres montait à la tête de Polly, car il dressa sa crête soufrée de toute son envergure, ouvrit ses ailes comme un oiseau héraldique et se mit, tout en dansant sur son perchoir, à dérouler son vocabulaire anglo-hindoustani. Sa verve interrompit sa maîtresse qui écrivait non loin de lui et qui posa sa plume pour le caresser. Polly se croyait tout permis en ce moment. Il alla même jusqu'à jouer avec la bague, s'attendant à recevoir une tape sur le bec, comme cela lui arrivait chaque fois qu'il se hasardait à tenter pareille chose. Le soleil frappait l'émeraude avec force et lui donnait tant de feu que Polly profita de la distraction de sa maîtresse pour saisir la pierre à plein bec. Il sentit aussitôt que l'émeraude branlait entre les griffes de la bague. Le Kakatoé serra plus fort, secoua la tête et parvint à détacher la gemme qui se trouva bientôt entre ses mandibules, tournant sous la pression de sa langue noire et dure. Un cri d'horreur retentit. Mrs. Monty-Smith saisit la tête de l'oiseau si soudainement que celui-ci, de peur, avala l'émeraude. La veuve vit avec terreur la bête faciliter la déglutition du trésor. Elle sentit qu'elle craignait plus pour la santé de son cher Polly que pour la perte de la gemme. Le perroquet semblait plus à son aise. Il put en tout cas prononcer très clairement « gratter coquille ». Muette devant cette catastrophe, Mrs. Monty-Smith sonna. La bonne entra. Polly lui cria « Hello, Mary !» La veuve lui demanda de téléphoner au plus vite et de dire au vétérinaire de venir. Elle cacha la bague aux griffes vides et annonça d'un ton naturel que Polly n'était pas lui-même aujourd'hui. Le vétérinaire de South Kensington était un homme fort occupé. Il avait toutes les allures d'un médecin de dame, car il avait affaire surtout à des toutous parfumés et peignés et à des chats chéris qui mangeaient dans leur vaisselle à eux. Le quartier était en effet habité par des personnes qui ne se croyaient pas habillées, sans un pug sous le bras ou au bout d'une laisse. Les grands magasins tels que Harrods et autres ressemblaient parfois à des expositions canines, car l'entrée principale était peuplée d'une collection de quadrupèdes poilus de différentes races qui, attachés à une chaînette et sous la garde d'un homme en uniforme, attendaient avec anxiété la sortie de leur maîtresse. Mr. Dobb était un homme du monde. Il savait combien les darlings tenaient de place dans le cœur de leur dame et avait toujours monté un tact et une douceur qui lui avaient valu sa nombreuse et riche clientèle. C'est lui qui avait soigné l'opossum de Lady Olivia Spout, le lémur de Madagascar de Mrs. Montalivet Guy, les tortues japonaises, de lézards verts et un bébé crocodile appartenant à des actrices connues. Il avait même été appelé dernièrement pour une consultation d'où devait dépendre l'existence de deux poissons rouges à double queue qui venaient de Chine et qui ne pouvaient pas supporter l'eau de Londres. Mr. Dobb dut avouer cette fois-là que ses connaissances n'étaient pas amphibies. Il arriva en toute hâte, 2 heures après l'appel du téléphone, et fut accueilli par un scratch coquille qui indiquait au moins que l'oiseau n'était pas à la mort. Mr. Dobb tâta l'oiseau autant que celui-ci voulut bien lui permettre ses familiarités, ce qui ne dura pas longtemps. Il ne put sentir aucunement la présence du corps étranger et en arriva à la conclusion que Polly aurait à suivre un régime, à être soumis à une stricte surveillance. Il promit d'envoyer sans tarder une petite ordonnance pour le malade. Les 48 heures qui suivirent furent pour Mrs. Monty-Smith pleines d'angoisse. Elle craignait tant pour Polly. Mais l'oiseau semblait se porter à merveille et ne paraissait nullement se douter du trésor qu'il avait englouti et qui avait subitement exagéré sa valeur intrinsèque. Il faut croire que l'accident donna un coup à la veuve, car elle fut trouvée morte quelques jours après dans son lit, où elle avait paisiblement passé d'un sommeil à l'autre. Percy se trouva hérité d'une collection d'armes et de la fameuse bague. Quelques parents éloignés recevaient des souvenirs sans grande valeur. Marie, la bonne de confiance et l'amie de Polly, hérité du Kakatoès, sous condition de ne le vendre ni le donner à qui que ce fût. Ce fut pour le neveu un choc subit lorsqu'il vit la bague veuve de son émeraude. Mary comprit alors seulement la visite du vétérinaire, n'en souffla pas un mot tout en se défendant de soupçons que Percy avait presque formulés à son adresse. Un mois après, Percy ouvrit une lettre qui contenait la note des honoraires dus par Mrs. Monty-Smith à Mr. Dobb, vétérinaire. Des explications données par celui-ci dévoilèrent au neveu que le sale oiseau qu'il haïssait tant était le dépositaire d'une petite fortune qui lui appartenait à lui seul. Mary et Percy se trouvèrent plusieurs fois en présence l'un de l'autre dans le cabinet d'un sollicitor. Mais l'homme de loi démontra au neveu que rien ne pouvait changer les termes du testament de la défunte. Polly était la propriété exclusive de Mary. Percy hériterait de l'émeraude à la mort du Kakatoès. Percy commença tout à coup à prendre le plus grand intérêt à l'histoire naturelle, celle des oiseaux en général, des cacatoès en particulier. Il profita d'un samedi après-midi pour aller au zoo. Aller au zoo un samedi après-midi est une chose dont un gentleman ne se vante pas, tout simplement parce que cela ne se fait pas, n'est pas de bon ton, guère plus que de manger des cacahuètes dans un théâtre pendant l'entracte. Il se dirigea vers l'aviarium où les perroquets de toutes couleurs et de toutes grandeurs emplissaient une vaste pièce d'un vacarme infernal. Il reconnut dès l'entrée les membres de la famille Cacatua sulfurea qui ressemblaient tous à Polly à s'y méprendre. Il en étudia un, entre autres, qui venait de prendre des mains du gardien une grosse noisette qu'il s'efforçait de percer et de briser avec son bec. L'oiseau tournait la noisette après chaque tentative, comme pour découvrir un endroit plus tendre de la coque. Percy vit les efforts répétés des mandibules. Il put même distinguer des mouvements de tête qui signifiaient l'impatience et qui auraient très bien pu traduire un juron. Le cacatoès essaya sans cette fois d'ouvrir la noisette. Après quoi il l'abandonna pour une feuille de laitue qu'on venait de mettre dans sa cage. Le gardien semblait un brave homme. Percy lui fit quelques questions au sujet de ces bruyants oiseaux et parut s'intéresser tout particulièrement à la longévité légendaire des perroquets. « Tenez, » dit le gardien, désignant d'un index qui avait des cicatrices de nombreux coups de bec, « en voilà un qui a 73 ans. Il mangeait un perchoir par mois, à ce point qu'il a fallu en mettre un en fer. Avouez que, quand vous aurez cet âge-là, vous ne pourrez plus mâchonner votre perchoir. » Percy, qui voulait rester poli, avoua, tout en rajustant son monocle. « Est-ce vrai que le persil les empoisonne ?» demanda Percy d'un ton détaché. « Ça, je ne pourrais pas vous le dire, » répondit le gardien. « Je sais en tout cas que la betterave cuite est bonne pour eux. Nous leur en donnons souvent. » Mais la betterave cuite n'intéressait nullement Percy. Il glissa un shilling dans la main du gardien et foudroya de son œil gauche le calyptorhynchus banksii qui venait de le saluer d'un hello quelque peu familier. Percy avait plusieurs fois songé à approcher Mary et à lui parler business. Il n'avait jusqu'alors daigné remarquer que chez le solliciteur l'existence de la bonne, qui perçut même aux yeux d'un homme comme Percy. Il lui donna un rendez-vous à son bureau et roula dans sa tête toutes sortes de plans machiavéliques où il était question d'un meurtre mystérieux dont le sang serait racheté au poids de l'or. Mais dès que Mary entra dans son bureau, Percy perdit son assurance et remarqua pour la première fois que Mary, en tenue de ville, pourrait fort bien faire tourner des têtes en Piccadilly. Polly allait très bien, disait la bonne, mais elle craignait d'avoir à s'en séparer, car sa sœur, chez laquelle elle vivait maintenant, commençait à trouver que la bestiole était par trop bruyante, et tenait dans leur petit appartement autant de place qu'un piano à queue. Son perchoir devait être placé hors de portée des meubles, des rideaux et des tapis. Mary citait le fait authentique d'un cacatoès qui, dans une maison de leur quartier, avait fait des dégâts dont la somme s'était montée à près de 100 livres sterling. L'oiseau appartenait à un peintre connu. Libéré mystérieusement de sa chaînette, la bête échappée dans l'atelier avait déchiqueté plusieurs tableaux de prix, avait émietté des cadres dorés et avait terminé la séance par une orgie de couleurs ayant crevé tous les tubes à sa portée. Le cacatoès avait été relégué immédiatement au zoo qu'il accepta en cadeau, croyant d'abord recevoir un haras du Brésil, tant la robe de l'oiseau était bigarrée. Mary avait donc décidé de mettre Polly en pension aux eaux. Il serait bien soigné, trouverait des compagnons et maintes distractions. Percy trouva l'idée lumineuse et ne put s'empêcher d'en féliciter la bonne. « Naturellement, ajouta-t-il, pas un mot de l'émeraude. » Mary aimait trop le cacatoès de sa maîtresse pour lui faire courir le moindre risque. La semaine suivante, Polly était installée au zoo, dans une cage qui n'était pas luxueuse, mais qui portait un solide cadenas. Il y trouva bruyante compagnie. Les gens qu'il voyait au travers des barreaux de sa prison avaient tous un « Hello, Cookie !» accueillant et amical, mais il les trouva bien laids. Mary vint le voir souvent. Percy lui-même lui apporta plusieurs fois des noix et des noisettes succulentes. Il tâchait de s'attirer les bonnes grâces du gardien. Mais l'homme semblait probe et incorruptible, en tout cas d'une malhonnêteté qui coûterait cher à obtenir. L'homme, d'ailleurs, avait eu avec Mary de longs entretiens, durant lesquelles la bonne lui avait demandé de surveiller Percy autant que Polly. Un matin, Mary reçut un mot du gardien. Polly avait été trouvée morte dans sa cage le matin même. Elle ne fit qu'un bond jusqu'au zoo, demanda au gardien de mettre un autre cacatoès dans sa cage, de ne rien dire et d'accepter de livrer Sterling. Elle emporta dans le Times le corps du défunt. Rentrée chez sa sœur et se sachant seule pour quelques heures, elle fit séance tenante l'autopsie de Polly, trouva l'émeraude intacte et après avoir fait un grand feu dans le fourneau, elle livra, les larmes aux yeux, le pauvre oiseau à la crémation. Percy fut surpris de trouver le jour suivant, parmi les lettres de son courrier, un petit paquet couvert de cachets lui donnant l'air très précieux. L'émeraude était enveloppée dans un papier de soie. Un mot de Mary l'accompagnait, disant que Polly étant mort 2 jours avant, elle lui remettait la pierre. Et Percy, tout en se reprochant d'avoir soupçonné l'honnêteté de Mary, trouva magnanime la hâte avec laquelle elle venait de remplir son devoir. Il courut d'un trait chez Pinks, dans Piccadilly, un bijoutier dont sa tante avait souvent parlé. Il attendit, impatient et ému, que l'homme vînt lui demander ce qu'il désirait. Il poussa l'émeraude sur le comptoir de verre et de la voix la plus calme qu'il put trouver, il s'informa de la valeur de la gemme. Il fut surpris de la manière dont Mr. Pink prit la pierre entre 2 doigts, la regarda à distance sans même mettre sa loupe à l'œil. « Je l'ai déjà vue hier. J'en ai offert 10 shillings. Elle est fausse mais bien taillée. » Il y eut un petit bruit de verre brisé. Percy, pour la première fois de sa vie, avait laissé choir son monocle. Sans savoir comment, il se trouva dehors, l'émeraude dans la poche de son pantalon, parmi ses clés et son canif. Il entra dans un bar et se fit servir un whisky straight. Il en avait besoin. Ainsi s'achève l'émeraude par Paul Vance.